Amen. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Bien, c'est toujours une joie de venir vous visiter. C'est pas la première, c'est pas la dernière. Je suis heureux d'être là ce matin et de pouvoir participer à ce moment avec vous. C'est une joie pour moi. L'église de Saint-Victoré vous salue parce qu'elle pense bien. Elle prie aussi beaucoup pour l'église d'Aubagne, sachez-le. Et nous sommes heureux de pouvoir ensemble faire ce bout de chemin, s'aider ensemble vers ce qui nous est promis, parce que nous allons tous vers une même direction, un même but, et c'est celui de se retrouver tous dans la nouvelle Jérusalem avec la gloire de Dieu qui sera là au milieu de nous. Alléluia. Et je vous invite ce matin à faire une lecture dans la parole de Dieu, un verset qui va nous servir de texte de référence. Et c'est un verset qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de Michée, au chapitre 6, à partir du verset 8, même que le verset 8. Michée, chapitre 6, verset 8. Michée, chapitre 6, verset 8. Il est écrit : On t'a fait connaître au homme ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, à travers ce verset, Dieu nous permet de voir et de comprendre ce que nous pouvons, ce que nous devons pratiquer chaque jour dans notre vie de disciple. Et je dirais, afin d'être en mesure d'avoir dans ce monde-là un comportement qui soit à la gloire de Dieu, parce que c'est ce que nous sommes censés rechercher. Il ne faudrait pas oublier, mes frères et sœurs, que oui, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi que nous plaçons en Jésus-Christ, mais cela ne nous affranchit pas de marcher, comme le dirait Paul, sur la terre d'une manière digne de Dieu qui nous appelle à son royaume et à sa gloire, nous le savons, bien au contraire. Si nous l'aimons vraiment, alors nous ferons tout pour être à son image en mettant en pratique dans notre propre vie, la nôtre en premier bien sûr, on regarde d'abord la poutre qu'il y a chez nous, avant de regarder la paille qu'il y a chez notre frère, donc je dis bien dans notre propre vie d'abord, ce que lui-même pratiquait lorsqu'il est venu sur la terre. D'ailleurs, les évangiles nous révèlent qu'à plusieurs reprises, Jésus-Christ a dit « Celui qui m'aime, garde mes commandements ». Et ça, c'est une parole qu'il nous faut chérir dans notre cœur parce qu'elle est essentielle. Les commandements de Christ, l'exemple de Christ, parce qu'il n'a pas fait que parler Jésus, il a surtout montré que ce qu'il disait, ça pouvait se pratiquer, ça c'est important parce que, vous savez, mes frères et sœurs, souvent j'entends, oui, mais c'était Jésus. Encore il n'y a pas longtemps, je parlais avec des enfants de Dieu, des disciples. Et puis il y en a qui disaient, oui, mais c'était Jésus quand même. Oui, mais non. Ce que Jésus a fait, il l'a fait en tant qu'homme. Et il l'a fait de cette manière aussi, pour que l'on puisse prendre conscience que si nous sommes remplis de l'Esprit, nous le verrons dans ce message, alors nous serons en mesure de faire ce que Jésus faisait. Et ça, c'est important de bien garder dans notre cœur. Et c'est un peu la raison pour laquelle, Dieu va nous demander, mes frères et sœurs, de pratiquer tous les jours ce que nous pourrions considérer ce matin comme trois grandes valeurs morales qui sont là pour soutenir notre vie chrétienne. Ces valeurs sont la justice, la miséricorde et l'humilité. C'est ce que nous avons lu dans notre texte de référence. Si nous regardons d'abord un petit peu le contexte qui entoure le verset que nous avons lu, nous allons découvrir que Michée est un prophète qui vivait dans le royaume de Juda à peu près à la même époque que vivait le prophète Ésaïe. Michée a commencé son ministère en moins 750 avant Jésus-Christ. Et à l'époque, je vous rappelle que le royaume d'Israël était déjà séparé en deux parties, pour ceux qui connaissent. Pourquoi ? Tout simplement parce que la séparation a eu lieu à cause de l'attitude charnelle, l'attitude déshonorante que le roi Salomon, le fils du roi David, a eue envers Dieu à la fin de sa vie. Tout le monde connaît cette histoire. 10 tribus d'Israël qui formaient le royaume du nord et une seule tribu qui, elle, formait le royaume du sud, celle de Juda, de là d'où nous vient notre Seigneur Jésus. Vous relirez les rois au chapitre 11, vous allez voir tout ce que je suis en train de dire. Mais Michée, lui, il est là et il va commencer son ministère donc dans un royaume qui est divisé. Il y a deux royaumes d'Israël, mais il y a deux royaumes d'Israël qui ne respectent ni les commandements, ni l'alliance qu'ils ont faite avec Dieu. Et dès les premiers chapitres de son livre, eh bien, nous allons voir que Michée va commencer par s'élever contre les injustices sociales qu'il y avait à l'époque. Et il va même aller jusqu'à rappeler au peuple de Dieu que toutes les pratiques religieuses, si elles ne sont pas accompagnées d'une vie qui est juste devant la face de l'Éternel, ces pratiques religieuses ne servent à rien. Et je crois vraiment, mes frères et sœurs, que c'est une chose très importante à retenir pour nos vies ce matin, parce que beaucoup sont les chrétiens qui, aujourd'hui, dans ce monde moderne, je les appelle les chrétiens 2.0, viennent à l'église, mais ils y viennent par habitude. Ils ne respectent pas, ou ils ne respectent plus ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Chacun voudrait faire un petit peu comme bon lui semble. On essaye même d'adapter certains commandements de ce monde, ou certaines pensées de ce monde, aux commandements de Dieu plutôt. C'est ce que beaucoup essayent de faire. Ils essayent d'adapter leur vie afin de pouvoir vivre et avec Jésus, mais aussi dans le monde. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous appelle à vivre. Beaucoup sont ceux, mes frères et sœurs, qui aujourd'hui se laissent séduire. Beaucoup sont ceux qui ne disent rien, même devant toutes ces nouvelles manières qu'il y a de voir l'Évangile, des nouvelles compréhensions de la parole de Dieu qui, je vous l'assure, mes frères et sœurs, n'auront pour finalité que de ravager l'âme et la foi de ceux qui tolèrent ces doctrines-là. Seulement, eh bien, il ne faut pas que nous nous trompions, nous, parce qu'il n'y a qu'un seul Évangile, et je sais que vous le savez ce matin, et il y a une seule façon, une unique façon de comprendre cet Évangile-là. Contrairement à ce que personne ne peut penser. Mes frères et sœurs, Dieu n'est pas divisé. Et parce que sa parole a un sens unique qui nous est révélé par le Saint-Esprit, nous n'avons pas plusieurs manières de la comprendre. Mais si nous ne sommes pas vigilants, si nous ne veillons pas et si nous ne prions pas sans cesse comme il nous est demandé, comme Jésus nous le demande d'ailleurs, eh bien nous allons finir par attrister, voire éteindre le Saint-Esprit qu'il y a dans notre vie. Et là, il y aura de lourdes conséquences sur notre comportement, de lourdes conséquences sur les décisions que nous allons prendre dans notre marche chrétienne. D'ailleurs, à ce sujet, nous pouvons remarquer qu'au chapitre 3 du livre de Michée, et au verset 8 cette fois, il est quand même écrit « Mais moi, je suis, écoutez bien, rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur. » Pour quelle raison ? Pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Et c'est justement, mes frères et sœurs, parce que Michée était rempli de force, du sens de la justice et d'un grand courage qui, au passage, c'est essentiel, lui était donné par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, c'est pour cette raison-là que Michée était en mesure de faire connaître au peuple d'Israël les iniquités qu'il commettait à l'encontre du Tout-Puissant et à l'encontre de sa parole. Écoutez bien, mes frères et sœurs, si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, alors nous ne pourrons pas faire ce que Dieu attend de nous avec efficacité, avec force et avec courage. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que juste avant de retourner auprès du Père pour nous préparer une place, eh bien, Jésus a dit à ses disciples, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et j'irai même jusqu'à dire que nous serons des témoins efficaces, des témoins remplis d'une force et d'une sagesse que le monde ne connaît pas. Nous l'avons dit ce matin, Dieu se plaît de prendre des choses faibles, des choses qui n'ont pas de valeur aux yeux des gens du monde qui se croient intelligents et sages, et il en fait des personnes exceptionnelles, remplies d'une force et d'une sagesse que le monde ne connaît pas. C'est la raison pour laquelle lorsque nous devons, et je l'avais ce matin dans mon cœur, mais lorsque nous devons servir notre Seigneur, ne nous inquiétons pas de notre talent, mais laissons Dieu venir nous donner ce dont nous avons besoin pour pouvoir le servir. Si Dieu vous appelle quelque part, mes frères et sœurs, faites ce que Dieu vous demande. Ne vous posez pas d'autres questions. Mettez-vous devant Dieu, c'est là, Seigneur, j'y vais. Dieu vous capacitera. Parce que Dieu capacite toujours. Il est celui qui donne la sagesse. Il est celui qui donne la capacité de faire des choses. Et c'est ce que Michée avait compris. D'autres l'avaient compris dans la parole de Dieu, vous le savez. Mais là, eh bien, on parle de Michée. Lui, il savait qu'il fallait qu'il soit rempli pour pouvoir faire des choses incroyables. Et quelles choses incroyables, si ce n'est celles que Dieu lui avait commandé de faire et annoncer, eh bien, à son peuple de se réveiller. Mes frères et sœurs, je suis persuadé que tout vrai disciple sait que Jésus a fait de lui un vase d'honneur rempli d'un trésor inépuisable. Et je suis certain que ce matin, tout le monde en est conscient. Seulement, il nous arrive parfois d'oublier que ce trésor n'est pas fait pour être gardé, mais qu'il est fait pour être déversé dans la vie de notre prochain. Et si, eh bien, nous voulons que ce prochain que nous sommes censés aimer, comme nous sommes censés aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, eh bien alors, si nous voulons que cet homme, cette femme que nous allons croiser, ou même quelqu'un de notre propre famille, nos enfants peut-être, puisse parvenir à la connaissance de la vérité, celle que nous avons aujourd'hui, si nous voulons qu'il puisse être guidé sur le chemin de l'application des enseignements de Christ, eh bien nous devons commencer nous-mêmes par pratiquer cela dans notre vie, parce que sinon, nous ne serons pas crédibles à leurs yeux. Et je vous assure que le témoignage de certains chrétiens empêche des personnes de venir à l'église. Vous allez me dire, mais bon, frère, oui. Vous savez, je me suis converti très tardivement. Mais j'avais des gens autour de moi qui connaissaient le Seigneur. Et ils me parlaient de Dieu. Et tous les jours, dès que j'allais manger, donc c'était dans ma belle famille, j'allais manger là-bas et puis ça parlait de Dieu. Et Dieu ci, et Dieu là. Mais ça ne m'intéressait pas. Parce qu'on parlait beaucoup de Dieu, mais on n'y voyait pas l'exemple qu'on devait y voir, c'est-à-dire la foi, par exemple, la confiance, une confiance inébranlable, et d'autres choses. Mais lorsque, par exemple, eh bien, quelqu'un est venu me voir, il m'a dit, mais Dieu est tout-puissant. Oui, Dieu est tout-puissant. Alors demande-lui de t'aider pour ce problème-là, qui est, évidemment, selon ce que je vous entends dire, va à l'encontre de la parole de Dieu. Ah oui, mais tu comprends, c'est difficile. Non, il n'y a rien de difficile avec Dieu. Il y a simplement besoin que nous nous humilions devant sa face, que nous nous mettions en règle avec lui et qu'il nous donnera. Vous savez, la Bible, elle dit, celui qui manque, il parle de sagesse, mais de toute autre chose, qu'il la demande à Dieu. Et Dieu, je vous assure, Dieu qui est un Père aimant, il vous donnera ce qu'il vous manque pour arriver à passer au-delà de ce qu'il vous arrive, au-delà de ce que vous n'arrivez pas à vous séparer. Parfois, il y a des choses, eh bien, c'est difficile, mais Dieu, lui, est celui qui va vous aider. Et notre témoignage, nous les premiers, est important. Vous savez, la Bible dit, nous sommes des témoins sur cette terre. Nous sommes des ambassadeurs. J'aime ce mot de Paul. Nous sommes des ambassadeurs. Mais c'est quoi le rôle de l'ambassadeur? C'est de représenter un pays dans un autre pays. Mais nous, nous représentons quoi? Eh bien, nous représentons le ciel, mes frères et sœurs. Et parce que nous représentons le ciel, alors nous devons avoir un comportement digne de ce royaume-là. Mes frères et sœurs, si nous avons un comportement digne, alors, eh bien, les gens, sans même que nous ouvrions la bouche, seront de ceux qui vont se tourner vers le Seigneur Jésus parce qu'ils voudront nous ressembler. Ou lorsqu'ils passeront par un problème, ils auront envie de dire, mais comment tu fais? Comment est-ce que toi tu fais pour passer par là et ne pas toujours avoir la joie, être toujours dans la paix? Tu veux savoir? Viens, je vais t'amener quelque part. Cela suffira. Le témoignage parle bien plus que les mots, mes frères et sœurs, ne l'oublions jamais. Donc nous devons être crédibles, nous les premiers, aux yeux de notre prochain. Vous savez, la foi qui sert de fondement à notre âme repose véritablement sur Christ et sur sa parole. Mais si nous choisissons d'agir par nous-mêmes et de faire ce qui nous semble bon à nous, alors nous allons être facilement entraînés par notre chair. Et au bout d'un certain temps, eh bien, nous allons encore une fois forcément nous écarter complètement de ce pourquoi Dieu nous a appelés. Et je suppose que comme pour beaucoup de chrétiens ou beaucoup de pasteurs aujourd'hui, des gens qui s'éloignent un petit peu de la vérité de la parole de Dieu, eh bien les hommes qui sont cités par Michée dans son livre ont commencé leur ministère en voulant faire de leur mieux pour Dieu. Parce que je crois vraiment que personne ne commence quelque chose en disant « je vais faire les choses par hypocrisie envers toi Seigneur ». Non, certainement qu'ils ont voulu faire quelque chose de bien, ils ont eu à cœur de faire de bonnes choses. Mais pourtant, comme ils n'étaient pas remplis de cette sagesse, remplis d'esprit, eh bien ils ont été amenés à dévier. Ils ont laissé des brèches dans leur vie. Et à cause des brèches qu'ils ont laissées autour de leur cœur, eh bien, l'orgueil et l'amour de l'argent, dit la parole de Dieu, ont rapidement pris le dessus sur leur vie, ce qui les a conduits, mes frères et sœurs, à se fourvoyer pour quelques pièces d'or. Et c'est la parole qui l'enseigne. Et finalement, eh bien, ils avaient beau avoir l'apparence de chef, de prêtre, de prophète, aux yeux du peuple, bien sûr. Eh bien, aux yeux de Dieu, ils étaient devenus des pécheurs privés de sa gloire. Quelle tristesse! Mais ça, mes frères et sœurs, eh bien, ça m'amène à vous rappeler que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et je crois vraiment qu'à l'image de la cité de David, là où il y avait le temple de Dieu, hein, tout le monde le connaît, le temple qui a été construit par Salomon, eh bien, ce temple-là va représenter notre cœur, il représente notre âme. Et parce qu'il représente notre cœur, nous ne devons pas oublier qu'autour du temple, il était protégé par de grandes et par de puissantes murailles. Des murailles qui avaient, eh bien, pour but de repousser efficacement les attaques des ennemis qui allaient vouloir s'y jeter dessus, qui allaient vouloir détruire le temple. Et nous, mes frères et sœurs, nous avons besoin de protéger notre cœur par de belles et de grandes murailles spirituelles, des murailles spirituelles qui sont mises en place et fortifiées par notre Dieu en personne à travers, eh bien, notre temps de prière, je dirais, à travers la relation que nous allons avoir et la relation que nous allons garder avec lui tout au long de notre vie. Parce qu'encore une fois, nombreux chrétiens commencent à avoir une relation avec Dieu, mais pourtant avec le temps, la vie, les soucis, avec les choses que nous avons à faire. Vous savez, on manque de temps aujourd'hui. Eh bien, ils commencent à perdre cette relation. Mes frères et sœurs, si nous avons une toute petite relation avec Dieu, alors je vous assure que nos murailles seront fines et qu'elles se briseront facilement. Mais si nous avons une véritable et solide relation avec Dieu, alors nous aurons des murailles puissantes qui protégeront notre âme des assauts de l'ennemi de nos âmes, celui qui veut absolument attenter à notre vie. Mais pour cela, il faut que nos murailles soient fortes, et ce n'est pas nous qui allons les construire, mais c'est le Seigneur qui va les placer autour de notre cœur. La relation avec Dieu est ce qu'il y a de plus important dans notre vie. Et puis de toute façon, mes frères et sœurs, sérieusement, comment pourrions-nous dire que nous aimons Dieu si nous ne le connaissons pas? C'est important de savoir qui est notre Père. Pas simplement de dire, oh oui, bon, je le connais, je chante, je viens à l'église, j'écoute. Non, non, de le connaître personnellement. Il y a une différence entre entendre parler de quelqu'un et connaître cette personne-là dont la personne est en train de parler. Et nous devons connaître notre Dieu. C'est important. C'est ça la relation profonde que Dieu veut avoir avec ses enfants. C'est pour ça qu'il a restauré la relation. Parce qu'il veut que nous soyons en contact avec lui. Et je dirais en contact permanent. Et je voudrais aller encore plus loin ce matin, en vous rappelant, mes frères et sœurs, encore une parole qui est écrite dans la Bible, que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Dieu cherche des hommes et des femmes qui passent du temps avec lui, et non pas qui passent du temps à faire des œuvres pour lui. Parce que l'activisme, mes frères et sœurs, même religieux, ne peut ni sauver, ni même nous remplir de Dieu, ni nous guider sur le chemin de la vérité et de la vie. Par contre, ce qui est certain, c'est que cet activisme-là, eh bien lui, il peut nous perdre, nous faire perdre l'essentiel, c'est-à-dire notre communion avec Dieu dans la prière et dans la méditation de la parole. Vous savez, j'entendais quelqu'un qui disait, si tu n'as pas le temps de passer du temps avec Dieu, c'est que tu passes beaucoup trop de temps à faire ce que Dieu ne veut pas que tu fasses. Et c'est une grande réalité, ça avait marqué mon cœur. Et je m'étais dit, c'est vrai Seigneur, il y a un temps pour toi et rien ne doit enlever ce temps que je vais passer à tes côtés. Alors, même si c'est vrai mes frères et sœurs, que Dieu apprécie nous voir faire des choses pour lui, il aime cela, mais il préfère que nous passions du temps avec lui. Et croyez-moi, si vous passez du temps avec lui, automatiquement, vous aurez envie de faire des choses pour lui. Mais vous ne ferez pas pour être, c'est parce que vous êtes que vous serez amené à faire. Et ça, ça change tout. Ce que vous le ferez d'une manière complètement différente. Et Dieu, dans cette manière-là, pourra vous capaciter. À cause de tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, eh bien, Michée est celui qui va dire au peuple, mais surtout aux chefs et aux prêtres et aux prophètes, il dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, il dit, c'est que tu pratiques la justice, la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée, mes frères et sœurs, commence par parler de la justice, parce que il est essentiel pour chaque être humain d'être et de rester juste aux yeux du Père. Être juste pour avoir la vie éternelle, et je dirais rester juste pour garder le salut que nous avons obtenu par grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Je sais bien, mes frères et sœurs, que nous savons tous parfaitement que personne ne peut être juste devant Dieu et avoir la vie sans passer par la croix. Et nous l'avons abondamment exprimé ce matin. D'ailleurs, la Bible l'affirme dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 3, versets 21 et 22. Il dit « Mais maintenant, Dieu a révélé comment il nous déclare justes sans faire intervenir la loi. » Comme l'avaient annoncé les livres de la loi et les écrits des prophètes. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Et au verset 26, il rajoute, « Ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans le temps présent, car il lui permet d'être juste, tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. » Et ça, eh bien, c'est ce qui nous amène à recevoir le salut. Mais après avoir reçu le salut, après avoir été justifié par la foi en Jésus-Christ, eh bien, il faut impérativement, j'insiste mes frères et sœurs, continuer à marcher dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Paul le dira dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 4. Mes frères et sœurs, nous savons tous ce matin que la vérité, c'est la parole. Et que la parole, c'est Jésus-Christ. Donc Paul, en fait, il est là et il nous exhorte à marcher selon Christ, quoi qu'il nous en coûte. Il veut que nous nous efforcions à reproduire ce que Jésus-Christ faisait lorsqu'il était sur la terre. Et ce, je dirais, même si ça nous empêche de pratiquer ce que nos amis ou ce que notre famille pratique de temps en temps. Et ça, mes frères et sœurs, être capable de renoncer à vivre d'une manière indigne pour Jésus-Christ, ça s'appelle de l'obéissance, et je dirais aussi de la sanctification. Une sanctification qu'il est nécessaire de pratiquer tout au long de sa vie, sans quoi, eh bien, nous pourrions être privés du salut. Vous savez, il y a certaines paroles qui peuvent être dures à dire, mais la vérité, mes frères et sœurs, c'est que moi, je ne suis pas là pour vous parler d'un évangile de la prospérité, comme certains le font. Je ne suis pas là pour vous raconter des fables, mais ce matin, Dieu me demande de dire la vérité afin que nous soyons tous ensemble prêts lorsqu'il reviendra chercher son Église, ou alors lorsque nous irons vers lui, parce que je ne sais pas quand Jésus revient. Et je me permettrai de vous rappeler ce texte, parce qu'il est important, que tout le monde connaît, ou tout le monde a déjà au moins lu une fois, Matthieu 7, à partir du verset 21. Qu'est-ce qu'il dit ici? Regardez ce qu'il dit. Ceux qui me disent, c'est Jésus qui parle, « Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ?» Il y avait des pasteurs. Regardez ce qu'il continue à dire. « N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors oui, mes frères et sœurs, la grâce est un cadeau gratuit et un cadeau immérité. Mais pour le conserver dans notre vie, nous devons continuer à vivre selon la justice et la vérité révélée par Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est l'apôtre Paul qui va le confirmer. Dans sa lettre aux Romains, chapitre 6, verset 18, il dit, « Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Voilà ce que Paul nous enseigne, mes frères et sœurs. Et je vous assure que Dieu ne veut pas nous voir replonger dans la boue du péché que nous avons laissé. Il ne veut pas nous y voir revenir à cause de faux docteurs ou même à cause de faux raisonnements qui vont venir créer en nous des convictions qui sont contraires à la sainte parole. Et mes frères et sœurs, si nous ne veillons pas sur nous, sur notre cœur, je vous assure qu'il est fort pour se créer de faux raisonnements. Et ça va très vite, très très vite les faux raisonnements. C'est la raison pour laquelle nous devons veiller. D'ailleurs, Paul est celui qui va dire aux Galates, « Vous couriez bien, mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Et il rajoutera, « Cette influence-là ne vient pas de celui qui vous appelle. » C'est-à-dire, elle ne vient pas de Dieu, cette influence-là. Parce que si Dieu vous influence, ou il influence votre vie, il guide votre vie, alors automatiquement, vous allez avoir envie d'obéir à la vérité, telle qu'elle est écrite. Et je sais bien, mes frères et sœurs, que plus le monde va avancer, et plus cette vérité sera difficile à vivre. Pourquoi ? Eh bien, parce que les valeurs sont complètement retournées aujourd'hui. Ce qui était, eh bien, mal est devenu le bien, et ce qui est bien devient étrangement mal. Aujourd'hui, il est mauvais de parler du péché, il est mauvais de parler du salut, il est mauvais de parler de Jésus. C'est incroyable. Mais par contre, Dire que le péché n'est pas grave, là, il n'y a aucun problème. Le monde en est friand. Donc, forcément, mes frères et sœurs, plus les temps vont avancer, et plus il sera difficile de suivre, d'obéir au commandement de Dieu. Mais, je reviens à ce que j'ai dit, demandez la force à notre Seigneur. Soyez remplis du Saint-Esprit, et il n'y aura aucun problème pour vous pour résister à ce que le monde va vous proposer. Nous devons veiller, et il rajoute souvent dans la parole, veiller et prier. La prière, mes frères et sœurs, est très très importante. Vous savez, la pratique de la justice découle directement de la relation que nous avons avec Dieu. Et avoir une vie juste, c'est savoir demeurer dans l'obéissance et dans le respect de la parole de Dieu tout au long de notre vie. Une obéissance, mes frères et sœurs, qui est rendue possible par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, il n'est pas là que pour convaincre les gens de justice, de péché, de jugement. Il est aussi là pour nous guider. Il est aussi là pour nous aider à renoncer aux œuvres de la chair au détriment du fruit de l'Esprit. C'est ça que le Saint-Esprit est là. C'est ça qu'il répète à notre cœur. Il veut faire découler en nous de manière complète le fruit de l'Esprit. Mais il le fera seulement si nous le laissons pleinement agir dans notre vie. L'apôtre Paul, vous savez, il est celui qui nous enseigne de manière très claire dans sa lettre aux Galates, chapitre 5, verset 16. « Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Marchez selon l'Esprit et ne marchez pas selon vos pensées. C'est cela que notre Seigneur est en train de dire. Merci mon frère. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Marcher selon l'Esprit, il dit l'apôtre Paul. Voilà pourquoi si nous voulons être mes frères et sœurs et si nous voulons rester justes devant Dieu, nous n'avons d'autre choix que marcher selon l'Esprit. Nous n'avons d'autre choix que ne plus marcher selon nos propres pensées, selon nos propres envies. Et ça, c'est très important. En fait, celui qui veut pratiquer la justice, il doit tout simplement être capable de s'éloigner du monde pour se rapprocher de Dieu. Parce que ce monde-là, est complètement opposé à la justice de notre Seigneur. Ensuite, notre texte de référence, nous voyons que Michée va dire, « Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu aimes la miséricorde. » Vous savez, mes frères et sœurs, les personnes à qui Michée s'adresse ne pratiquaient pas la miséricorde à l'image de Dieu. Au contraire, ce qu'ils voulaient, ces gens-là, c'était l'argent. C'était même la reconnaissance de titre aux yeux du peuple. Mais si un lépreux s'approchait d'eux pour demander de l'aide, ils le fuyaient parce qu'ils avaient peur d'attraper la lèpre, cette maladie qui à l'époque était considérée comme une malédiction. Si quelqu'un avait besoin d'une parole de Dieu, ces hommes-là ne trouvaient rien de mieux à faire que de l'échanger contre de l'argent. Et pire, parce que Michée nous apprend qu'ils étaient capables de rendre la justice au nom de Dieu à la mauvaise personne si celle-ci possédait suffisamment d'argent à offrir. C'est grave. D'ailleurs, au chapitre 3, verset 11, regardez ce que Michée dit. Il dit, « Ces chefs jugent pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire, et ces prophètes prédisent pour de l'argent, et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. » Vous savez, Dieu ne s'attend pas à ce que nous générions de la miséricorde par nous-mêmes, mais il veut que nous reflétions l'amour et la miséricorde dont il a fait preuve pour chacun de nous. Et ça aussi, mes frères et sœurs, c'est quelque chose d'important. Et nous devons nous en rappeler, nous devons valoriser cette parole-là. Nous devons valoriser ce que Dieu a fait pour nous, afin de pouvoir à notre tour le pratiquer envers les autres. Dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 2, versets 11 à 13, l'apôtre Paul va écrire « C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. » Privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et je crois, mes frères et sœurs, que si chaque matin, chaque jour, nous prenions le temps de nous souvenir de la miséricorde dont Dieu a fait preuve en notre égard en Jésus-Christ, alors il nous serait peut-être à nous plus facile encore aujourd'hui de refléter cette miséricorde avec toutes les personnes qui croiseront notre chemin, quand bien même ces personnes-là seraient ignobles avec nous. Oui, même des personnes qui seraient ignobles avec nous. Mes frères et sœurs, nous ne devons jamais oublier que Dieu a échangé notre misère contre sa gloire infinie. Dieu a échangé, eh bien, notre péché contre sa justice. Et que nous le voulions ou pas, eh bien, nous devons apprendre à avoir ce même désir envers ceux qui nous entourent. Parce que le mot miséricorde, il signifie amour loyal, amour bienveillant. Il signifie sensibilité au malheur d'autrui. Voilà ce qu'il signifie. Il va même signifier pitié par laquelle on pardonne aux coupables. Oui, pitié par laquelle on pardonne aux coupables. Alors oui, peut-être que quelqu'un était coupable contre vous, mais vous devez avoir de l'amour, de la compassion, de la miséricorde, cette pitié véritable, afin d'être capable de lui pardonner. Et ça, eh bien, c'est encore une qualité incontestable de notre Dieu, une qualité que Dieu cherche à placer dans notre cœur afin que nous la pratiquions à notre tour. Mes frères et sœurs, la volonté de Dieu est là. Elle est que nous aimions comme il nous a aimés. Mais pas que nous aimions seulement Dieu, puisque Dieu dira que celui qui n'aime pas son prochain qu'il voit ne peut pas dire qu'il aime son Dieu qu'il ne voit pas. Mes frères et sœurs, les paroles ont du sens. Et nous devons être conscients de ce qui est dit. C'est très important. Nous devons pratiquer cela envers notre prochain. Vous savez à combien de reprises dans la parole de Dieu, nous le voyons, notre Jésus aimé et pardonné. Combien de fois nous voyons Dieu qui pardonne son peuple alors qu'il méritait simplement de mourir? Prenez du commencement jusqu'à la fin. Regardez à combien de reprises eh bien, Dieu est capable de cet amour-là, de cette pitié envers nous parce qu'il nous aime. On le voit avec le peuple d'Israël, c'est vrai, mais on le voit avec Jésus. Jésus, il est venu nous sauver, il est venu donner sa vie sur la croix. Et c'est parce que son amour et sa miséricorde sont immenses. Et parfaite et pleine, et bien qu'aujourd'hui nous sommes là ce matin, mes frères et sœurs. Nous ne serions pas là sinon. Et c'est pour cette raison que aussi nous pouvons jouir de cette espérance d'avoir la vie éternelle. Et c'est exactement ça, mes frères et sœurs, qu'il faut reproduire dans ce monde-là. Nous devons être à l'image de Jésus-Christ. Nous sommes des chrétiens. Nous ne devons pas nous appeler chrétiens. Je dis souvent à l'Église, ce n'est pas les chrétiens qui s'appelaient chrétiens. C'est les gens de l'extérieur, les gens du monde. Qui, lorsqu'ils les regardaient, ils disaient « Ah, c'est des chrétiens ». Aujourd'hui, nous avons pris l'habitude de nous appeler chrétiens, alors que parfois, nous n'avons rien de chrétien. Tout le monde est chrétien. Moi, je vois autour de moi, quand on évangélise dans la rue, vous connaissez le Seigneur ? Oui, oui, je suis chrétien. D'accord, mais vous connaissez Dieu ? Ah, ben, j'ai lu un petit peu comme ça, je connais. Voilà, tout le monde est chrétien. Non, non. Le chrétien, mes frères et sœurs, on le désigne. Ce sont les gens de l'extérieur qui vont dire « Ah tiens, lui, c'est un chrétien ». Mais ce n'est pas à nous. De dire ça. Nous, notre rôle, c'est de nous comporter d'une manière digne. Nous l'avons vu dès le départ, de nous comporter comme des disciples. Et c'est important de bien et de ne pas l'oublier. Ça, c'est ce que Dieu veut. Il veut que nous ayons cet amour loyal. Il veut que nous ayons cet amour bienveillant envers lui, mais surtout envers notre prochain. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons véritablement capables d'aimer chaque être humain comme il nous a lui-même aimé. Et si je dis chaque être humain, c'est parce qu'il faut y inclure aussi ceux qui ne nous ressemblent pas, ceux qui ne sont pas aimables. Et je le redis encore une fois parce que c'est la vérité, ceux qui nous ont fait du mal. Même ceux-là sont inclus dans l'amour que nous devrions avoir. Pratiquer la miséricorde selon Dieu, mes frères et sœurs, il faut l'avouer, va complètement à l'encontre du fonctionnement normal de l'être humain parce que l'être humain a le cœur corrompu et plongé dans le péché. Ça, c'est vrai. Mais il me semble que Dieu, lui, est celui qui vient changer, transformer notre vie. Et je l'entendais dans les prières, « Seigneur, tu as transformé mon cœur. » Ah oui ? Alors maintenant, il faut le montrer. Dieu a transformé ton cœur ? Pratique la miséricorde. Mes frères et sœurs, il me semble que l'homme a beaucoup de mal à aimer dans certaines circonstances. Il me semble que l'homme, et même le chrétien, je l'englobe dedans, a beaucoup de mal à pardonner et à passer par-dessus les torts que quelqu'un aurait pu lui faire. Mais nous devons faire très attention ce matin, parce que lors du sermon sur la montagne, Jésus va dire quelque chose d'exceptionnellement important. Tout ce qu'il dit est important. Mais là, il faut vraiment en prendre conscience aussi. Matthieu, chapitre 5, verset 7. « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Ce qui sous-entend, mes frères et sœurs, que celui qui n'a pas de miséricorde envers les autres n'en recevra pas non plus de la part de Dieu. Ou encore, au chapitre 6 et au verset 15, il dit « Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Mes frères et sœurs, ce sont des versets qui sont forts. Et ces versets qui sont forts, eh bien, me font penser, vous savez, à cette histoire qui se trouve aussi dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18, à partir du verset 23, il me semble. Cette histoire, eh bien, que Jésus va raconter juste après avoir dit à Pierre qu'il doit être capable de pardonner un frère jusqu'à 7 fois, 70 fois, dans la même journée. Hein. Ça fait beaucoup. Mais il va lui dire. Et juste après, Jésus, il va raconter une parabole. Pour ceux qui connaissent, c'est la parabole du roi. Le roi qui veut faire rendre compte à ses serviteurs. La Bible dit qu'on lui amène un homme qui lui devait 10 000 talents. Et comme il n'avait pas de quoi payer cet homme, eh bien, le roi va ordonner qu'il soit vendu. Lui, écoutez bien, sa femme et ses enfants, la famille entière, vendue comme esclave. Mais le serviteur qui était là, complètement impuissant, il va se jeter à terre et il va supplier le roi d'avoir encore de la patience pour le remboursement de sa dette. Il va lui demander « Pardon, s'il te plaît, je vais te rembourser, attends encore un peu. » Et la Bible nous dit qu'ému de compassion pour cet homme-là, eh bien le roi va le laisser aller. Et elle dit encore plus, le roi va effacer sa dette. Seulement, lorsqu'il sort du palais, cet homme qui est devenu libre, complètement libre, alors qu'il avait une dette immense, eh bien cet homme qui est devenu libre rencontre un compagnon. Un homme qui lui devait pas 10 000 talents, mais 100 deniers. Juste pour votre information, un talent, c'est 500 deniers. Lui, il devait 10 000 talents. L'homme ne devait que 100 deniers, même pas un talent. Et pourtant, lorsque son compagnon s'est jeté à terre pour lui demander d'être patient, lui dire qu'il allait le rembourser à son tour, eh bien, cet homme qui venait d'être gracié par le roi n'a rien voulu savoir et il va faire jeter ce compagnon en prison. Alors, eh bien, le maître va appeler ce serviteur et il va lui dire, « Méchant serviteur, je t'avais remis ta dette en entier parce que tu m'avais supplié. » Il dit, « Mais toi aussi, est-ce que tu ne devais pas avoir pitié de ton compagnon comme moi j'ai eu pitié de toi ?» Et la Bible dit que le roi le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Et Jésus finit cette parabole, il la conclut en disant, « Écoutez bien, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère. » Et il rajoute encore quelque chose, de tout son cœur. Mes frères et sœurs, la miséricorde, ce n'est pas que la bouche. De tout son cœur, ça se dit, mais ça se voit. Ça, c'est dur, mais c'est ce que Jésus a fait et c'est ce qu'il nous demande de faire. Vous savez, par sa miséricorde, Dieu a payé notre dette. Lui, il ne nous devait rien. Mais malgré nos offenses, malgré notre méchanceté, malgré notre comportement ignoble envers lui, eh bien lui, il a choisi de nous faire grâce. Et c'est exactement ce que nous aussi, nous devons pratiquer autour de nous si nous ne voulons pas être jugés comme cet homme qui n'avait aucune compassion, aucune miséricorde pour celui qui avait une dette envers lui. Alors oui, peut-être que des gens nous ont fait du mal, mais n'oublions pas que la dette de nos péchés et la dette du mal que nous avons commis envers Dieu, eh bien, elle a été effacée par miséricorde et par amour. Ne l'oublions jamais, mes frères et sœurs. Vous avez remarqué ce que disait le verset de référence au sujet de la miséricorde? Dieu ne nous demande pas à ce que nous ayons de la miséricorde. Vous avez remarqué ce qu'il dit? Il demande que nous aimions avoir de la miséricorde. Quand même, Seigneur. Eh oui, les mots comptent. Il ne veut pas que vous ayez de la miséricorde. Dieu veut que vous aimiez avoir de la miséricorde. En fait, eh bien, nous devons prendre plaisir à avoir une vie qui déborde de miséricorde pour tous. Et cette notion est fortement reprise dans le Nouveau Testament. Il dit, « Je vous donne un commandement nouveau, dit Jésus, aimez-vous les uns les autres. » Il dira, « Aime ton prochain comme toi-même. » C'est ça que notre Seigneur nous enseigne. La miséricorde, mes frères et sœurs, est une valeur qui découle directement de l'amour, complètement de cet amour que Dieu a. Et je vous encourage d'ailleurs à relire tout le chapitre 13 d'un Corinthien, vous avez le temps dans la journée, parce qu'il est merveilleux. Il parle de cet amour, de ce qu'il doit être en réalité. Et peut-être que nous pourrions même prendre le temps à la maison de le comparer avec ce que nous vivons, pour voir s'il y a des choses à changer, mes frères et sœurs. Il y a toujours des choses à changer. Même moi qui vous prêche aujourd'hui. On a besoin d'avancer. Vous savez, Dieu nous reprend pour notre bien. Il veut que nous avancions. Il veut que nous nous fortifions. Parce que son désir, c'est de nous voir avec lui pour l'éternité. Quant à l'apôtre Jean, il va écrire quelque chose qui relie directement l'amour à la justice de Dieu. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 10, il dit « Celui qui ne fait pas ce qui est juste aux yeux de Dieu n'appartient pas à Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. » Et pour finir, Michée va dire « Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu marches humblement. » Et nous pourrions rajouter « Humblement avec les gens du monde, mais aussi humblement dans l'Église avec les frères et sœurs. » Et ça, mes frères et sœurs, c'est encore un sujet épineux. C'est encore une qualité qui ne fait pas partie de notre nature propre. Parce que depuis longtemps, l'homme est orgueilleux et l'homme est centré sur soi. Il se croit être le centre du monde. Il se croit tout puissant. Nous le voyons aujourd'hui. Hein. Regardez ce que nous sommes en train de vivre. L'homme est impuissant hein. Et pourtant, il croit tout savoir. Et on a droit à tout un tas de débats, tout un tas de théories. Les théories, elles ne s'arrêtent jamais. Mais la réalité, c'est que la seule puissance, c'est Dieu. La seule intelligence, c'est Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devrions prendre le temps de nous humilier un peu plus souvent. Même si c'est un sujet épineux, c'est vrai. L'homme, vous savez, il a ce défaut de s'imaginer que tout ce qu'il possède vient de lui et du travail acharné qu'il a lui-même fourni durant toute sa vie. Moi, je me rappelle, j'étais comme ça avant de connaître le Seigneur. Ma femme, lorsqu'elle disait « Merci Seigneur », je lui disais « Non, merci à moi. C'est moi qui me lève, c'est moi qui vais travailler, c'est moi et c'est moi et c'est moi et c'est moi. » Et en fait, c'était toujours moi. Alors qu'en réalité, rien n'était de moi. Seul Dieu. Dieu me permet de me lever. Dieu me permet d'aller travailler. Dieu me permet d'être en bonne santé, mes frères et sœurs. Quand on a connu Dieu, je vous assure que notre vision change complètement. Les réussites que nous vivons ne doivent jamais, mes frères et sœurs, nous amener à nous enorgueillir de ce que nous sommes ou de ce que nous possédons. Même si parfois Dieu permet que nous possédions quelque chose. Parce que de toute façon, ce que nous possédons, et vous le savez tous, n'est que passager. Cela n'est qu'éphémère, mais aussi parce que nous devons reconnaître que tout ce que nous avons provient de Dieu. C'est Dieu qui a créé toutes les richesses, même qu'il y a sur cette terre. Vous savez, ces richesses que nous exploitons, l'homme, lui, il est là que pour exploiter ce que le Créateur a bien voulu mettre à sa disposition. Et ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul, qui était un homme très intelligent dans la chair, vous le savez, eh bien, lui, il a dit, s'il faut se glorifier, eh bien, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Il savait, Paul, qu'à travers ses faiblesses, c'est toute la puissance de Dieu qui rentrait en action dans sa vie de disciple. Paul le savait. Il savait rester humble devant notre Dieu. Parce qu'il savait que dans son humilité, eh bien, Dieu était celui qui l'élevait. Oh, non pas l'élever pour posséder dans ce monde, non, non, il l'élevait pour pouvoir accomplir des tâches incroyables que sont celles de la conversion des âmes. Il n'y a rien de plus grand, il n'y a pas plus grand miracle que la conversion d'une âme. Ce n'est pas qu'un bras repousse le plus grand miracle, hein. Ce n'est pas quelqu'un qui retrouve la vue, hein, le plus grand miracle. C'est quelqu'un qui se convertit, qui se tourne à Jésus, qui change de vie, qui accepte le Seigneur de tout son cœur et qui va hériter du royaume des cieux. C'est ça le plus grand miracle. Et pour notre vie spirituelle, mes frères et sœurs, je vous assure que l'humilité n'est pas une option. Nous ne pouvons pas être des disciples de Christ si nous ne sommes pas capables d'agir comme lui-même nous l'a enseigné. Il me semble quand même que ce matin, eh bien, nous avons lu un texte. Et ce texte, il disait que Jésus a quitté son ciel de gloire pour venir nous chercher. Il n'a pas regardé à ce qu'il était. Non, non, il a tout laissé, il a quitté. Et il est venu comme un simple homme. Il s'est humilié. C'est ça que nous dit la parole de Dieu, pour venir nous chercher dans la boue de notre péché. Et la Bible dit, elle le dit clairement, il n'y a pas d'autre moyen de voir les choses. Ce sacrifice que Jésus a fait, mes frères et sœurs, il est Dieu. Il n'était pas obligé. Et pourtant, il a choisi de s'humilier. Il a choisi de faire envers nous un sacrifice de miséricorde et d'humilité qui aujourd'hui nous rend libres, si nous demeurons en sa personne, bien sûr. Si Dieu n'était pas humble, mes frères et sœurs, encore une fois, nous ne serions pas là aujourd'hui. Nous ne serions pas là ce matin. Vous savez, Jésus est notre modèle. Et de la même manière qu'il est venu sur la terre pour servir et non pas pour être servi, eh bien nous aussi, mes frères et sœurs, nous devons servir les autres en faisant passer leur intérêt avant les nôtres. D'ailleurs, dans Philippiens chapitre 2, verset 3, regardez ce qu'il est écrit. « Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. » Est-ce vraiment ce que nous faisons, mes frères et sœurs? Dieu vous pose cette question, il me la pose à moi aussi, en premier. Vous savez, avant de vous la poser, ça passe par là. Et je me pose régulièrement cette question. Seigneur, est-ce que vraiment je me fais moi moins important que les autres? Parce que si ce n'est pas le cas, Seigneur, reprends-moi vite, afin que je redescende sur eh bien, cette direction qui est la tienne. Mes frères et sœurs, Christ ne nous demandera jamais de faire quelque chose qu'il n'a pas fait lui-même avant nous. Et par son témoignage, eh bien, il nous montre que nous pouvons y arriver, je vous l'ai dit. Vous savez, nous avons parfois du mal à nous humilier devant un frère, mais Jésus, lui, il est quand même allé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Et par ce geste, il leur a montré l'importance de l'humilité. Il leur a montré l'importance de se rendre serviteurs les uns des autres. Parce que personne n'est au-dessus de personne. Et parce que personne n'est plus grand que son frère. D'ailleurs, à ce sujet, Jésus-Christ va dire à ses disciples, « Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs, nous dit la Bible. » Vous savez, il n'y a pas d'homme qui soit plus grand qu'un autre, parce que tous les hommes sont pécheurs. Ils sont tous privés de la gloire de Dieu. Et nous devrions faire attention, mes frères et sœurs, de ne jamais, jamais essayer de nous placer au-dessus de nos frères. Parce que dans l'évangile de Luc, chapitre 14, verset 11, Jésus va rajouter que quiconque s'élève sera abaissé et que quiconque s'abaisse sera élevé. Alors je vous le dis ce matin, prenons garde à ces versets qui sont importants. Ces versets que nous avons tendance parfois à laisser sortir de nos cœurs. Vous savez, l'orgueil est quelque chose qui nous colle à la peau et nous le voyons souvent apparaître à travers nos discussions. Nous le voyons souvent apparaître à travers notre manière de penser, de parler ou d'agir. Mais ce que Dieu attend de nous ce matin, c'est que nous fassions de l'humilité une attitude de cœur et non pas simplement une apparence extérieure. Parce qu'une apparence d'humilité cache forcément un cœur orgueilleux et arrogant. Seulement Jacques est celui qui a écrit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. L'humilité, mes frères et sœurs, est une qualité qui compte particulièrement pour Dieu parce qu'elle nous permet de rentrer dans son royaume. Et oui, c'est avec humilité, mes frères et sœurs, que nous nous approchons de lui pour qu'il pardonne nos fautes. Celui qui est orgueilleux, qui veut s'approcher de Dieu pour demander pardon, ça ne marche pas. Il faut qu'il soit humble. Et cette qualité d'humilité nous servira aussi pour occuper des responsabilités dans son œuvre. Parce que lorsque nous nous humilions devant l'Éternel, la muraille de l'orgueil qui entoure notre cœur est brisée. Et parce qu'elle est brisée, eh bien cela nous permet de recevoir de Dieu pleinement ce qu'il nous veut, ce qu'il nous permet d'avoir, ce qu'il veut que nous ayons dans notre vie. Cela nous permet d'entrer dans le plan parfait qu'il a pour chacun d'entre nous. Le psaume 25, verset 9 dit « Il conduit les humbles dans la justice ». Et il enseigne aux humbles sa voie. Dans son humilité, Jésus obéissait toujours au Père, et de la même manière, eh bien, les chrétiens doivent être humbles et prêts à renoncer à toute forme d'orgueil ou d'égoïsme pour se soumettre à la parole de Dieu. C'est très important. Vous savez, l'orgueil amène à glorifier notre être naturel, charnel. Seulement, la Bible nous appelle à rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il accomplit dans notre vie. Et je vous laisse avec ce verset. Méditez-le. Jérémie 9, 24. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Amen. On remercie le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, combien nous voulons te dire merci. Merci parce que c'est vrai, Seigneur, que tu es celui qui nous instruit. C'est vrai, Seigneur, que parfois il y a des choses difficiles à pratiquer, à comprendre. Mais Seigneur, nous savons qu'avec toi, nous pouvons y arriver. Tu es celui qui donne et qui donne en abondance. Alors apprends-nous chaque jour à venir auprès de toi, à tes pieds, en toute humilité, pour que tu puisses remplir notre vie, remplir notre cœur et que nous puissions ensemble, Seigneur, avec toi dans notre vie, avec toi à nos côtés, que nous puissions grandir, progresser et te ressembler jour après jour. Seigneur, fais de nous des disciples humbles. Fais de nous des disciples qui aimons pratiquer la justice. Fais de nous des disciples qui aimons de la miséricorde. Je t'en supplie, mon Dieu, même si c'est difficile, nous voulons que tu nous donnes la force d'être différents. Nous voulons nous démarquer de ce monde parce que nous voulons te faire ressortir dans notre vie afin que tu sois celui qui brille, qui éblouisse la vie de tous ces gens qui nous entourent. Seigneur, nous sommes la lumière, c'est vrai, mais cette lumière ne brille qu'à travers toi, qu'à travers ta personne. Alors, s'il te plaît, aide-nous à gommer toutes ces impuretés qui empêchent ta lumière de resplendir parfois dans notre vie afin que nous puissions être, eh bien, cette lumière qui allons éclairer tous ces gens qui sont autour de nous. À toi soit toute la gloire, mon Dieu. Amen.